Bonjour Bernard.
Bonjour Louis.
Alors, Christian Dubé, hier, t'es pas content? Sur Twitter, il s'est laissé aller. Il a dit là, allez-y vous faire vacciner, là, il est moins une.
Il est nerveux. Et il est en vacances, imagine. Ouais. Il sort de ses vacances pour envoyer le message. Mais je pense qu'il a raison un peu, Louis, d'être nerveux, malgré les bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles tout de même. La première bonne nouvelle, c'est que le Canada est un des meilleurs élèves en matière de vaccination. Donc, du G20, ça fait partie avec presque 52% des gens pleinement vaccinés et fait partie aussi du top 7 pour la première dose. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, selon les sondages, parce que bon, la presse a épluché plusieurs sondages, et la résistance idéologique, donc on comprend que les républicains aux États-Unis, près de la moitié des républicains sont contre le vaccin, 22% des Albertains sont contre, mais au Québec seulement 9%. Donc, il y a 91% de place là, pour une pleine vaccination. Ce qui inquiète Christian Dubé, c'est on commence à comprendre la portée du variant Delta. Oui, on le dit aux nouvelles, ça représente 5,3% des cas. C'est très peu de cas, mais de plus en plus, on comprend que, oui, évidemment, la propagation est beaucoup plus grande, mais les risques d'aller aux soins intensifs est 3 fois plus grand et les risques de mortalité 2 fois plus grands. Donc, c'est une menace qui n'est pas arrivée chez nous, mais l'Organisation mondiale de la santé disait hier que c'est déjà dans 124 pays, ça progresse à la vitesse grand V, donc et ça voyage surtout auprès des jeunes, et c'est là le problème. Les 20-34 ans, là, c'est le deux tiers des cas du variant Delta, et ces gens-là sont moins vaccinés. Alors, on peut comprendre un peu la nervosité du ministre, et ce, malgré la loterie, malgré l'accessibilité. Il y a des efforts importants qui ont été faits pour vacciner les jeunes. On se promène partout, on va les rencontrer là où ils sont, mais c'est l'aiguille ne bouge pas beaucoup, bien qu'on l'aurait espéré.
Il y a un point de vue intéressant, par contre, ce matin, qui est amené dans le journal de Gazette, en une du Gazette, de la Gazette, où on explique que, ou en fait, il y a une hypothèse qui est étudiée par certains microbiologistes pour dire que la raison pour laquelle le fameux variant Delta ne nous frappe pas comme l'Ontario, en Ontario, c'est 88,6% des nouveaux cas qui sont du Delta. Nous, c'est 5,3%, je pense. Alors, ce qui est avancé par certains microbiologistes, c'est de dire que le variant qu'on a chez nous qui se répand le plus, il s'appelle le A.2.5. C'est une variété là, du variant alpha. Et il contiendrait un élément du fameux variant delta qui s'appelle L452R. Là, c'est des codes quand on analyse vraiment l'ADN, si on veut, du variant, et qui viendrait prendre la place du delta. Autrement dit, quand le delta veut s'implanter, la place est déjà prise et il serait pas capable de s'implanter chez nous. C'est une des hypothèses qui est étudié par certains microbiologistes. Alors, c'est intéressant quand même comme diversité, parce qu'on n'a pas les mêmes sources de contamination chez nous qu'on peut avoir dans le reste du pays et même aux États-Unis.
Alors, ça montre que c'est complexe. Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, au Québec, Louis, il y a des experts aussi qui disent que le fameux séquençage et le criblage pour identifier justement les particularités des variants devraient être faits dans les établissements, alors que c'est pas le cas aujourd'hui. Les échantillons sont envoyés au laboratoire de santé publique, c'est plus long. Donc, là aussi, il y a des critiques dans le sens où, si on veut préparer la paix, il faut préparer la guerre, le civis pacem parabellum, voilà. Et la quatrième vague, on va l'avoir, et ça, je pense que les experts sont de plus en plus unanimes, et c'est de savoir quand ça va frapper. Et le problème qu'on a, c'est un problème de sensibilité. Les gens ont un sentiment de quiétude, les vagues, on vaque à nos occupations. On est l'été, c'est les vacances. C'est les raisons pour lesquelles cette complexité-là et la façon dont les aiguilles bougent, que le ministre s'inquiète, probablement avec raison.
Bon, les frontières, la frontière américaine va rester fermée pour les Canadiens, pendant que la frontière canadienne va être ouverte pour les Américains, puis ça fait des mécontents, évidemment.
Oui, puis c'est étonnant parce que un peu plus tôt, là, dans l'extrait de Jean Charest, il disait la synchronisation. Le premier ministre Trudeau était très enthousiaste quand il avait annoncé la réouverture des frontières. On pouvait s'attendre à la réciproque, et je pense que l'ensemble des Canadiens disaient oui, ben on va voir comment ils discutent, mais il semble que les discussions sont moins avancées qu'on ne l'aurait cru. Mais en attendant, effectivement, c'est toujours possible de voyager en avion. On est passé de 4 à 5 aéroports. Les Américains exigent simplement un test de dépistage pour les gens qui se rendent aux États-Unis. Donc, la preuve vaccinale n'est pas requise à ce moment-ci. On a évoqué également l'autre enjeu politique qui est la frontière américaine. Donc, on comprend qu'on partage le même espace économique.
La frontière mexicaine, tu veux dire.
Mexicaine, oui, tout à fait. Mexique américaine. Et bon, pourquoi deux poids, deux mesures? Il y a des enjeux avec la crise des réfugiés plus au sud. Et là aussi, ça fait partie de la réflexion des Américains. Bon, maintenant, on a nommé hier, tu sais, un nouvel ambassadeur au Canada, David Cowen. Ça a l'air qu'il s'y connaît en communication parce que, bon, c'était un industriel en communication et je pense qu'on manque de communication. Il va falloir s'asseoir là puis regarder ça parce qu'il y a une incohérence et c'est dans les incohérences que les gens développent une espèce de scepticisme et on croit moins aux mesures. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur... En attendant, on va accueillir nous, les Américains, à partir du 9 août. Donc, c'est à suivre très certainement.
Et tiens, rapidement, là, parce qu'on est, le temps commence à manquer, mais il y a cette histoire à Gatineau qui est complètement folle. La ville de Gatineau qui avait donné un permis de construction au propriétaire d'une maison sur la rue Fraser. Alors, le propriétaire lui construit sa maison parce qu'il avait le permis, puis comme c'était inscrit sur le certificat de localisation, puis là, la ville se rend compte qu'ils ont fait une erreur. Que la maison est trop proche de la rue, passe une dérogation mineure pour dire, ben on va passer une dérogation pour rendre ça légal, mais les voisins, ils disent, mais ça n'a pas de bon sens, la maison nous cache la vue, puis, et d'ailleurs, on voit les photos, puis c'est assez éloquent, puis c'est une grosse cabane, là, pour 3 millions, tu construis quelque chose d'assez gros. Et là, ils sont obligés, il y a un juge qui vient de dire, vous allez être obligés de démolir la maison.
Oui, parce que, bon, évidemment, ça moi, ça me semble excessif, mais en même temps, les règles municipales, et d'autant plus que l'erreur vient du service d'urbanisme. Des permis, d'urbanisme. Quelqu'un qui a émis un permis, la règle et les règlements municipaux sont clairs, il faut être à au moins 15 mètres de la rue, qui est l'emprise, en fait, municipale, et on a autorisé la construction à 7 mètres. Donc, ça fait de l'ombre sur les voisins, et c'est évidemment l'enjeu financier qui est intéressant. C'est pas la première fois qu'un juge va statuer sur l'application de la réglementation et malgré la dérogation mineure, parce que bon, de façon générale et c'est vrai dans toutes les villes du Québec, on règle ce genre de problème là. Et maintenant, qu'est-ce qui est mineur, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est toujours la question, l'ambivalence. Ouais. Et dans ce cas-ci, est-ce que la moitié de la marge avant, c'est mineur. On peut le penser, compte tenu du contexte, la maison est déjà construite, on peut l'accorder, mais dans ce cas-ci, le juge a décidé, non, vous allez démolir cette maison-là, cette maison cossue. Bon, est-ce que Gatineau va faire appel du jugement de la Cour supérieure? Ça m'étonnerait pas, mais en même temps, il va falloir qu'il plaide l'aspect dérogation mineure. Là. Est-ce que c'est mineur comme entorse?
C'est parce qu'à la clé, tu sais bien que le propriétaire lui veut poursuivre, hein, parce qu'il veut pas perdre sa maison non plus, puis il veut pas perdre son investissement. Alors la ville va être obligée de payer quelque part.
Oui, et malheureusement, souvent dans des histoires comme celle-là, ça commence par une petite erreur d'aiguillage dans un permis et ça finit par des millions en cours. Voilà.
Alors c'est ça, quand on répare une erreur en faisant une autre, l'erreur reste là. Merci Bernard, à demain.
Merci, à demain, Louis.